Nous commençons ce soir le cours L'insoutenable légèreté de l'être, lundi 26 octobre, et nous sommes dans ce cours d'anthropologie au chapitre 3. Il y a eu un premier chapitre après l'introduction, un premier chapitre sur le corps en deux parties, un deuxième chapitre sur la liberté en deux parties, et voilà le chapitre 3 qui se donnera en une seule leçon sur le langage. Ensuite, il y aura la société, et puis l'histoire, et puis la mort, et puis l'homme devant Dieu. Introduction. À la fin du deuxième chapitre sur la liberté, eh bien, je vous ai suggéré qu'on pouvait donner une double définition de la liberté, une par le désir et une autre par l'esprit. Par le désir, ça veut dire dans les quatre moments de l'acte de la liberté, eh bien, si on ne prend que les deux premiers, alors on a une définition de la liberté par le désir, ça veut dire l'intention et le choix. Mais si on prend les deux moments suivants, ça veut dire le travail, la maîtrise et la fruitio, donc l'échec ou la réussite. Si on prend les quatre moments ensemble, on a une définition de la liberté par l'esprit. L'esprit, c'est la liberté présente à elle-même. La liberté en acte, c'est l'esprit. Voilà comment je définis les choses. Hein. La liberté en acte, l'être humain est un être libre, et bien lorsqu'il agit librement, il est vraiment spirituel. Et agir librement, ça veut dire agir, bon, à partir de sa mémoire, de son intelligence et de sa volonté en synergie. Et bien, cette alternative entre une définition de la liberté par le désir ou par l'esprit, rejaillit sur toutes les dimensions, finalement, anthropologiques. Dans une philosophie, si on choisit une définition de la liberté par le désir, eh bien, je dirais, aussi bien le langage que l'histoire, etc., se donnent d'une certaine manière. Si on définit la liberté par l'esprit, on a une toute autre manière d'envisager toute chose humaine, et il me semble que cette manière, évidemment, est plus complète, plus spirituelle. En effet, la définition par le désir, la liberté est comme immergée dans ses déterminations et elle veut les nier, elle veut les fuir et donc c'est par des choix incessants qu'on tourne un peu en boucle sur cette liberté qui ne veut pas se soumettre à des déterminations. Tandis qu'au contraire, lorsque la liberté accepte dans son choix d'assumer les déterminations, de les travailler, de les surdéterminer, eh bien nous avons donc un travail d'acceptation des conditionnements, mais aussi de dépassement des conditionnements, et on arrive donc à une autre manière de voir la liberté. Eh bien je dirais que pour le langage aussi, il y a deux manières d'envisager le langage, de parler du langage humain. Mais avant cela, je note que dans le langage se reflète tout l'homme. Pourquoi consacrer un chapitre complet d'anthropologie au langage? Un des 7 chapitres est consacré entièrement au langage. Eh bien parce que je trouve, avec d'autres bien sûr, que le fait que l'homme soit un être parlant, eh bien c'est tout à fait caractéristique de l'homme. Les animaux, etc., ont parfois un certain langage, une certaine communication, mais la parole, le langage, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et ça implique la liberté. La parole, bien sûr, implique le corps, puisqu'on parle avec ses lèvres, ses poumons, etc. Ça implique la mémoire, parce qu'on a en tête tous les mots de la langue française ou d'autres langues. Ça implique l'intelligence, pour organiser des phrases. Ça implique la liberté, la volonté, la liberté, parce qu'on choisit de parler. Chacun choisit de dire ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a décidé de dire. Alors parfois ce sont des banalités, mais parfois ce sont des choses extrêmement importantes. On peut avoir un langage simplement descriptif des choses, bon, mais évidemment il y a aussi un langage qu'on appelle performatif, où eh bien on engage beaucoup plus sa volonté en disant eh ben, « je t'aime » ou « je te déteste » ou bien « nous concluons un accord pour faire ceci » ou bien « voilà ». Là, ce sont des engagements, des actes performatifs où le langage est essentiel à non seulement la volonté, mais la liberté en général. Parler à ce moment-là, eh bien, c'est exprimer sa liberté. Et il y a au fond, dans notre tradition occidentale, deux grandes manières d'envisager le langage. La manière grecque et la manière hébraïque, juive. Et au fond, ça, c'est la première partie de ce cours. Donc, le logos et l'écriture. Le logos est un mot grec. Enfin, le mot hébraïque correspondant, c'est dabar, la parole. Et l'écriture, ici, c'est l'écriture sainte. Hein, c'est l'écriture de la Bible. Une conception grecque et une conception juive. Alors, comment caractériser ces deux conceptions? Alors, par parenthèse, je me souviens d'un théologien qui expliquait que c'était extraordinaire que la révélation chrétienne s'était donnée dans ces deux langues, hein, dans la langue hébraïque, l'Ancien Testament, et dans la langue grecque, Nouveau Testament. Et que les chrétiens, eh ben, doivent se débrouiller pour recevoir la parole de Dieu dans le génie de deux langues très différentes. Et que ça fait partie de la richesse de la révélation, hein, que d'avoir à la fois l'esthétique, je dirais, de la langue juive et l'esthétique de la langue grecque. Alors, je parle d'abord d'une conception plus grecque de la langue, du logos. Le logos, donc, c'est à la fois la parole, mais c'est l'intelligence, etc., la raison, le langage. Eh bien, ces deux termes, raison et langage, sont pour une part indissociables. On exprime son intelligence par des paroles. Et pour parler, il faut être intelligent. Donc, il y a une connivence entre le langage et la raison. Le langage, c'est un outil à la disposition de l'homme pour exprimer l'intelligence qu'il a à l'intérieur de lui, pensent les Grecs. Mais là, justement, c'est la grande différence. Est-ce que le langage est seulement un outil à la disposition? Est-ce que l'homme dit les choses au moyen d'un instrument qui s'appelle le langage? Ça, c'est plutôt la conception grecque, en effet. Le langage est utilisé comme un outil et il y a une pensée qui précède. Mais, d'une certaine manière, la conception hébraïque est différente. Nous sommes dans le langage, nous sommes pris dans le langage. Le langage nous précède, la parole nous précède. Et les choses se disent dans l'homme et à travers l'homme. Mais c'est lui qui est reçu dans le langage. Ce n'est pas l'homme qui utilise le langage comme un outil. Alors vous allez peut-être trouver cette conception un peu mystique ou mythologique ou je ne sais pas quoi, mais à force de la travailler, vous verrez la force que ça a. Alors, est-ce que ce sont les choses qui se disent dans l'homme et le cosmos, Dieu et les autres se disent en moi à travers le langage que j'ai reçu? Ou est-ce que c'est moi qui utilise le langage comme un outil et j'en suis le maître? Alors, pour les Grecs, eh bien, en effet, le langage est là pour organiser le monde, pour le décrire, pour l'articuler, pour mettre de l'ordre au milieu des choses, penser au langage scientifique par exemple, ou pour ordonner la cité, penser au langage politique, on parle pour s'organiser, hein. On parle pour faire de la science. Sans cette parole, eh ben, on ne peut pas comprendre le monde, on ne peut pas vivre ensemble dans la cité, on ne peut pas s'organiser pour être dans la paix. Donc voilà, le langage, le logos, est un outil que l'on utilise. Dans cette conception grecque, donc, l'homme est le maître, il a barre sur le langage. Et on peut même en arriver à l'idée des sophistes qui disent « l'homme est la mesure de toute chose ». C'est l'homme qui mesure les choses par son langage et le monde, ben, il est vraiment secondaire par rapport à l'intelligence de l'homme. Le logos est une puissance dont l'homme dispose. Alors bien sûr, pour Platon, pour Aristote, c'est clair que la raison n'est pas vraiment à la merci de l'homme, hein. Il ne peut pas arbitrairement changer les règles du langage, mais quand même, hein, le langage est un outil dont l'homme dispose. En effet, dans le langage même, et ça c'est assez extraordinaire, et ça nous pousse déjà un petit peu vers l'autre conception, dans le langage, il y a une logique. Alors ça, c'est absolument incroyable. Comment se fait-il que, eh bien, il y a une grammaire que les enfants apprennent, et que les enfants apprennent naturellement, et qui parfois est très compliqué, surtout dans certaines langues, hein, et que spontanément les enfants apprennent. La logique est là, dans le langage, et ils l'assimilent. Et cette logique, eh ben, elle précède l'homme, elle précède de l'apprentissage de l'enfant et de l'homme. Comment se fait-il qu'elle est là? Est-ce que des logiciens ont fait un travail avant que la langue existe pour mettre de la logique dans la langue? Non. Ça, c'est une chose mystérieuse. Évidemment, à force de parler, les choses se sont affinées, bien sûr. Hein, on ne sait pas bien comment le langage a surgi. Mais quand même, lorsqu'on voit un enfant, c'est absolument extraordinaire. Hein, à un an et demi, il ne sait rien dire. Et à deux ans et demi, il commence à faire des phrases extraordinaires. Hein, en respectant parfois des déclinaisons et des concordances de temps compliquées. Et tout. Il y a là quelque chose de très rapide hein, qui surgit vraiment. Alors, dans la tradition hébraïque, l'homme parle parce qu'il est accueilli par la langue. La langue l'accueille. La langue se transmet à lui et elle l'enfante. La langue hébraïque, qui est concentrée dans la Bible, dans la Bible écrite bien sûr, eh bien, c'est la matrice de l'homme qui parle. L'homme ne dispose pas de la langue. La langue elle-même est comme un immense récipient, peut-être assez immatériel. Hein, comme je vous ai dit dans un premier temps, ça semble un peu mythologique ou mystique, mais vous allez voir que c'est très important. La langue est la matrice dans laquelle l'homme naît à lui-même comme être parlant, comme être résonnant, et cette langue lui dit ce qu'est le monde, ce qu'il est lui-même, ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Elle lui propose eh bien, une manière de vivre. La parole de Dieu, concentrée dans la Bible, la parole créatrice, eh bien, c'est elle qui engendre l'homme à la parole. Les Écritures sont comme le miroir du monde. Alors, cette conception est assez étrangère à la Grèce, hein, plus rationaliste, et pour une part, elle est très étrangère aussi à notre culture, qui est plus scientiste, et même parfois logiciste et matérialistement logiciste si on veut, et où on croit vraiment que la langue c'est une série de signes arbitraires qu'on a mis ensemble et qui fonctionnent et rien de plus. Arbitraire, ça veut dire bon, mais qui n'a pas de sens en soi. Cette conception donc plutôt hébraïque est difficilement assimilable par la pensée occidentale, mais vous allez voir dans la deuxième partie qu'on y arrive quand même, hein. On y arrive quand même, parce que la parole définie uniquement de manière logique et grecque, eh bien, elle tourne à vide. Il faut un embrayeur qui se trouve ailleurs. Voilà. Donc, la première conception d'origine grecque est plus anthropologique. Elle est plus anthropologique, c'est le sujet qui désire dire quelque chose et qui se sert de la langue. C'est une force dont il dispose, qu'il peut mobiliser ou non, pour domestiquer le monde, pour s'allier aux autres, ou les détruire, ou les injurier, etc. Tandis que dans l'autre conception, la parole est donnée comme d'au-delà de l'homme. Dieu a créé par la parole. Et Dieu dit que ce soit et les choses furent. Le verbe comme le langage préviennent l'homme et l'éclaire, lui apporte la révélation, lui montre qu'il est un être spirituel. C'est en se donnant à l'homme que la langue... que la parole révèle à l'homme qu'il est lui-même un être parlant et un être spirituel. Pour les juifs, qu'est-ce que c'est commenter l'écriture sainte? Eh bien, c'est la répéter sans rien y ajouter, sauf, évidemment, l'infinité des mots de ce monde, de la vie courante. Mais cette vie courante ne peut pas transformer l'écriture, ne peut pas changer la parole de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes souvent, disons, plus rationalistes et plus de type grec, et nous lisons la Bible en disant, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, qu'est-ce que moi je comprends de ce qu'il a dit, etc. Nous attaquons souvent l'écriture par un biais beaucoup plus subjectif, et beaucoup moins, disons, respectueux de la parole qui se donne elle-même et qui fait sens en elle-même, et c'est moi qui dois... disons avoir l'humilité de pénétrer dans cette parole. En fait, dans la culture occidentale, les Allemands ont perçu cela, beaucoup mieux que les Français qui sont plus rationalistes ou que d'autres. Dans la pensée occidentale, les Allemands ont le mieux saisi ce caractère de donner, de donation, de révélation de la langue. Alors, sur le cadre là de la première feuille, hein, vous voyez les Allemands, en bas j'ai mis Hamann et Heidegger, mais il y en a d'autres. Hamann, qui est né en 1730, qu'on appelait le mage du Nord, c'était quelqu'un qui a scruté la Bible, mais à un moment où les dictionnaires et les grammaires hébraïques n'existaient pas beaucoup. Hein. On faisait tout ça sur le tas, on lisait, à force de lire, on comprenait plus ou moins. Et ce sont ceux-là, évidemment, qui ont réussi, hein, à force de travail, à composer les dictionnaires et les grammaires. Il y en avait déjà du côté juif, mais je dirais du côté non-juif. C'est tout ce travail qui a été fait par Hamann, qui n'était pas juif, par Hegel et par d'autres, par Herder, von Humboldt. C'était des linguistes, hein, qui se sont passionnés au 19e siècle, 18 et 19e siècle surtout, pour les langues non occidentales, hein, pour le sanskrit, pour les Védas, pour la Bible hébraïque, etc. Ils se sont passionnés pour tout ça. Et ils ont découvert là une parole incroyable, qui disait tout autre chose que ce qu'on disait en Occident, hein, et dans laquelle il fallait vraiment s'immerger pour comprendre finalement un autre monde que celui dans lequel ils étaient spontanément. Quelqu'un comme Heidegger, par exemple, que vous connaissez, 1890-1976, s'est inspiré de ces linguistes, de ces poètes, pour dire que finalement, le langage avait une valeur métaphysique, un poids métaphysique. Hölderlin, par exemple, qui est un grand poète allemand, a été beaucoup commenté par Hölderlin, et Hölderlin est vraiment un poète extraordinaire, qui est devenu fou très rapidement, hein, très jeune, après avoir produit une œuvre extraordinaire, et puis il a passé le reste de sa vie à être jardinier à Tübingen. J'ai vu la tour dans laquelle il avait vécu là-bas, hein, à côté du séminaire où il avait fait son séminaire avec Hegel et avec Schelling. Voilà, un homme inspiré qui ne produit pas des poèmes mais qui les découvre dans le monde. Hein. C'est une espèce de comparaison comme ça qu'on peut dire. Il lit le monde sous forme de poèmes. Parce que, eh bien, le monde parle une langue poétique en lui. Heidegger, qui parfois évidemment a des côtés un peu ésotériques, reconnaît dans le langage la révélation de ce que nous ne pouvons nous-mêmes ni penser ni inventer. L'articulation, le rassemblement du monde s'opère dans le langage et surtout dans le langage poétique. Le langage ne se mesure pas en termes de subjectivité, ce que je veux dire, hein, mais ce que le langage dit. Il n'est pas d'abord notre œuvre, le résultat de nos projets. Le langage est d'abord un monde qui nous accueille et dans lequel nous habitons. Alors moi je ne sais pas si vous avez ce goût de la poésie ou de la linguistique, etc., pour sentir comment une langue est différente d'une autre, hein, comment, eh bien... tel et tel langage dit par un poète ou par un acteur, etc., tout à coup vous plonge, hein, dans une Stimmung, dans une ambiance, dans une perception du monde, des choses, qui n'est pas dite logiquement par les mots eux-mêmes, hein, mais par une espèce d'incantation, hein, du langage lui-même qui vous transforme, qui vous fait vivre quelque chose. Les mots, pour Heidegger, les mots ont la consistance de l'être. Les mots, ce n'est pas words, des trucs qui n'ont pas d'importance. Au contraire, les mots, eh bien, ont vraiment un poids. Ils sont là et ils disent le monde et ils le constituent d'une certaine manière. Alors, les Allemands donc ont compris cela. Et je reviens à l'écriture. L'écriture elle-même, l'écriture juive, s'est recueillie dans un livre, la Bible, qui est comme un univers à lui tout seul, dans lequel nous sommes précédés et qui nous survivra. L'Écriture est là bien longtemps avant que nous n'apparissions, évidemment, et quand nous commençons à l'habiter, eh bien, voilà, c'est tout un monde qui se déploie et qui nous est donné, et qui est gage d'immortalité, peut-on dire, au sens où, eh bien, cette Écriture, cette parole de Dieu me dit vers où je vais, et où je vais avec les autres. Passer sa Bible à lire l'Écriture, ça ce sont des espèces de maximes de rabbin, hein. Passer sa Bible à lire l'Écriture, c'est un gage d'immortalité. Parce que l'Écriture, dans l'esprit où elle a été écrite et peut être lue à chaque génération, rassemble ses lecteurs, passé, présent et à venir, pour les mettre au présent de l'Éternel qui s'y annonce. Souvenez-vous de la parole de Jésus, hein, « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas ». Et Jésus lui-même est la parole de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, le Logos s'est fait chair, Jean 1, 14. Eh bien, voilà, il est lui-même la parole, comme personne. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ça, c'est Matthieu 24, 35. Alors, je reprends un petit peu tout cela en regardant le cadre, l'encart que je vous ai mis sur le recto de votre feuille. Donc, deux conceptions du langage. Dans la deuxième partie, je vais creuser surtout la conception plus grecque, mais pour finir par arriver quand même à la nécessité de réévoquer quelque chose de type plus hébraïque. Donc, deux conceptions du langage, les Grecs et les Juifs. D'un côté, le logos, de l'autre, parole, écriture, dabar, hein, la parole, l'écrit, ketuvim. D'un côté, c'est l'homme qui dit. De l'autre, c'est les choses qui se disent en l'homme. Un côté plus objectif, hein, ou plus subjectif. L'homme dit. Alors bien sûr, Platon, Aristote, les stoïciens savent que la parole n'est pas purement subjective. S'y exprime une universalité. Hein. On essaye de dégager la logique, hein, des choses et de dire des choses qui valent pour toujours et partout. L'universalité des choses, jusqu'à dire même comme Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Hein? Donc c'est l'homme qui découvre, qui dégage l'universalité du monde. Mais dans la parole de type plus juif, c'est Dieu qui parle, c'est le prophète, et il parle au singulier, c'est une personne singulière qui parle. Ce n'est pas l'universalité qui parle, hein? Ce n'est pas la logique qui parle, ce n'est pas une philosophie abstraite. C'est Dieu dans une histoire. Hein. Voilà donc l'opposition aussi entre l'universalité et le singulier. Un pôle plus anthropologique du côté grec, un pôle plus religieux, plus métaphysique, plus mystique du côté juif et du côté allemand. Voilà, ça c'est donc une première partie que je voulais développer, deux conceptions du langage. Alors, nous allons creuser de manière un peu plus précise l'analyse, la philosophie contemporaine du langage, la linguistique, etc., pour nous rendre compte que, malgré toutes ces précisions logiques, hein, qu'elle met en avant et qui sont très utiles pour comprendre comment fonctionne la langue, eh bien, elle débouche quand même sur la nécessité, hein, d'autre chose, hein, d'un acte, d'une vie, d'une histoire. Alors ici, je m'appuie sur Ricoeur, un article qui est indiqué en note sur votre verso. Langage et vérité. L'article s'intitule « La structure, le mot et l'événement ». Alors dans le cadre, eh bien, vous avez à gauche finalement la structure et à droite vous avez l'histoire, l'événement. La linguistique, au XXe siècle, a développé un ensemble de concepts extrêmement utiles pour analyser, hein, la langue, le langage. En fait, la linguistique est même devenue une science humaine, une des six sciences humaines répertoriées par Ladrière et de manière assez universelle. Les sciences humaines sont l'économie, l'histoire, la psychologie, la sociologie, la linguistique et l'ethnologie. La linguistique est donc une science humaine, mais avec un côté formel, informalisable. Le 19e siècle a commencé un peu, 18-19e siècle, avec la découverte de l'histoire, a découvert les sciences humaines. Et après l'histoire, on s'est attaché à l'histoire des langues, à l'histoire des grammaires, à l'histoire des civilisations à travers la langue. Mais c'est le 20e siècle qui a vraiment formalisé la linguistique à partir de Fernand de Saussure, un Suisse, qui a écrit vers 1904-1905 le cours de linguistique générale, extrêmement important, qui a eu une influence énorme sur d'autres linguistes comme Hjelmslev, un Danois, Trubetskoy, Jacobson, etc. Bon, peu importe. Mais donc, tous ces linguistes ont affiné le travail de décortiquer la langue pour savoir finalement comment elle fonctionnait à un niveau formel. Donc, on a systématisé de plus en plus ce que de Saussure a eu comme intuition. Et la première intuition de Saussure, c'est celle-ci. Et elle est assez importante. C'est que le langage, c'est la langue plus la parole. Vous avez là dans le cadre les deux dimensions du langage. Le langage, c'est une langue, la langue française par exemple, et une parole. Eh bien, je parle ou vous parlez et vous utilisez cette langue. On peut, disons, décomposer les choses comme ça. Le langage, c'est quelqu'un qui parle une langue. Si vous n'avez que la langue, vous n'avez pas encore un langage, il faut que quelqu'un utilise cette langue. Et cette langue elle-même, c'est là que de Saussure surtout est important, cette langue elle-même est une structure. Une structure extrêmement complexe, mais qui en elle-même est muette. C'est une structure, ça veut dire un ensemble de possibilités qui sont offertes aux hommes pour parler. Mais cette structure est extrêmement précise, extrêmement logique. Mais elle n'est qu'en puissance. Il faut que quelqu'un l'utilise pour dire quelque chose, alors on dit, ben voilà, on est dans le langage. Quelqu'un prend la langue et l'utilise pour dire une parole. Il y a donc la puissance et l'acte, c'est assez classique, la puissance et l'acte. La langue est en puissance d'être utilisée pour dire une parole, mais cette parole doit être dite par un acteur qui la met en acte. Voilà. Ce sont les deux dimensions du langage. La langue comme telle est une pure structure abstraite et qui est constituée essentiellement de différences internes. Alors, prenons l'exemple du dictionnaire. Eh bien, qu'est-ce que c'est une table ? Une table, c'est un meuble qui, etc. Bon, qu'est-ce que c'est un meuble ? Ben, un meuble, c'est un truc qui, etc. Et qu'est-ce que c'est ça ? Ben, c'est un truc qui, etc. Bon. Et donc, quand on ne connaît pas une langue, eh bien, et qu'on ouvre le dictionnaire à un mot qu'on ne connaît pas, d'habitude, on va faire une douzaine de mots en plus, pour comprendre, finalement, la seule définition qu'on cherchait. Mais donc, les choses se définissent les unes par rapport aux autres. Chacune se différencie un tout petit peu des autres. Et c'est donc la langue est composée d'un dictionnaire et d'une grammaire. Le dictionnaire lui-même, donc, d'abord, prenons le dictionnaire, est un ensemble de signes qui ne se différencient entre eux que par de minimes différences. Et des différences qui, eh bien, voilà, s'ajoutent, se soustraient, etc., pour dire une chose plutôt qu'une autre. Donc il y a tout un patrimoine de mots, bien sûr, qui ont été inventés, affinés, qui ont des généalogies de l'un à l'autre, etc. Mais, disons, ils ne signifient quelque chose que par différence d'avec l'autre. Alors je prends des exemples qui sont assez clairs. Si je vous dis non, que veut dire non ? Que veut dire non ?
Pas.
Pardon ?
Ça dépend comment ça s'écrit.
Oui.
Ça dépend comment ça s'écrit. Parfois, parfois même l'orthographe ne change pas, mais donc c'est, ça dépend si c'est par rapport à oui. Oui, non. Mais ça pourrait vouloir dire autre chose. Quoi, par exemple? Si on oppose non à autre chose que le oui, on peut l'opposer à
mais.
Non, prénom. Alors, si je prends la différence non, prénom, ben vous dites, ah oui, non, alors ça veut dire tout à fait autre chose que oui, non. Hein? Oui, ça veut dire quoi? Ben, si je vous dis oui, non, vous comprenez. Mais si je vous dis Namur, oui, Liège, ben, oui, ça veut dire autre chose. Vous allez dire, oui, j'ai mal prononcé, j'ai mal écrit, peut-être, mais enfin, dans la vie courante, c'est ça. Hein? Bon, c'est le train qui va de Namur par oui jusqu'à Liège. Voilà, oui veut dire quelque chose dans le contexte d'une opposition de différence par rapport à d'autres choses. Alors, si on parle à l'intérieur d'un ensemble d'autres langues, ya, ça veut dire quoi, ya? Ça veut dire oui si on l'oppose à nen. Bon. Et alors, nous allons voir si vous êtes de bons linguistes. Ya, ti, on, ça veut dire quoi, ça? Là, vous avez aussi un ya. Ya, ti, on. Eh bien, en polonais, ça veut dire je, tu, il. Ya, c'est je. Hein? Donc, si je le pose à ya, ti, on, on comprend que ya veut dire ça. Mais si je dis, par exemple, ya, todavía no. Ça, c'est en espagnol. Ça veut dire déjà, pas encore. Hein? Ya, todavía no. Mais je peux dire aussi « ya » et « ya pas hein? ».« Ya » et « ya pas ». Donc vous voyez que, évidemment avec les monosyllabes c'est assez facile, mais vous voyez qu'au fond un signe ne signifie rien s'il n'est pas mis en contexte par rapport à des différences, et c'est la différence qui signifie finalement ce que veut dire et l'une chose et l'autre chose. Hein? Il faut tout ce contexte. Alors, bon, je suppose qu'on avait déjà observé ça avant de Saussure, mais de Saussure a généralisé cela et a dit au fond, le dictionnaire, ce n'est que hein, de minimes différences qui s'opposent les unes aux autres, se comparent les unes aux autres, et le dictionnaire, c'est un immense système formel, clos, il y a un nombre fini de mots dans le dictionnaire, hein, et qui se renvoient tous les uns aux autres, mais qui en soi, eh bien, ne voudrait rien dire si les autres n'étaient pas là. Donc c'est un immense réservoir de potentialité, mais par rapport aux autres. Alors pour mettre maintenant ces mots en musique, si j'ose dire, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut une grammaire. La grammaire, c'est un ensemble de règles qui portent sur des mots. Quels mots? N'importe quel mot. X, Y, Z, peu importe, hein? Mais sujet, verbe, complément. Oui, mais c'est quel mot? N'importe quel mot. Alors vous prenez des mots dans le dictionnaire, vous les mettez en formule dans la grammaire, et vous avez une phrase. Donc vous avez d'un certain côté, je dirais, l'ensemble des données, hein, la base de données dans une mémoire, et de l'autre côté un logiciel. Et puis vous mettez les deux ensemble. Et alors ça fait une phrase. La langue comme telle donc se compose d'un ensemble de mots dans un dictionnaire qui, mouliné par une grammaire, devient un discours. Une phrase qui fait sens. Mais pour ça, ben, il faut que quelqu'un parle. Il faut que quelqu'un s'empare de la grammaire et du dictionnaire et dit « moi, je veux dire ça ». Et là, vous devez faire un acte de liberté. Là, vous devez vouloir. Hein? Là, il y a quelque chose d'inattendu. Ça ne se trouve pas dans la structure. Ça ne se trouve pas dans la grammaire. J'ai beau ouvrir le dictionnaire, je ne vais pas trouver la phrase que je veux dire dans le dictionnaire. Je dois la fabriquer moi-même. Hein? Je dois faire un acte de volonté, de liberté. Je dois devenir un acteur. Je dois mettre en acte donc ces choses. Voilà, donc c'est un petit peu la base de données, hein, le logiciel qu'on met ensemble. Mais là aussi, comme l'ordinateur, ben, l'ordinateur, lui, il est potentiellement beaucoup, beaucoup de choses, mais il faut que vous commenciez à tapoter dessus pour que quelque chose se fasse. Hein. Donc il faut un acteur, il faut une volonté. La langue, on parle une langue, mais la langue ne dit rien. La langue ne dit rien, mais nous parlons une langue. dire quelque chose au présent, c'est donc faire un acte de parole en s'emparant de ces choses-là et en les mettant ensemble. Alors, le dictionnaire est un ensemble de signes, selon ce que j'ai mis au tableau là-bas, un ensemble de signes écrits, mais éventuellement oral, si c'est un dictionnaire sur des bandes magnétiques. Et le signe lui-même se décompose en son et sens. Le son et le sens. Alors ça, c'est très important, c'est une distinction très importante. Le son, c'est par exemple table, et le sens, c'est le sens du mot table. Alors, il faut bien distinguer, le son est une chose, c'est le signifiant, et le signifié, c'est table. Mais c'est le concept de table, ce n'est pas la table, ce n'est pas la chose. Le mot table ne me désigne aucune table. Elle désigne dans ma tête quelque chose qui est peut-être une image, mais même cette image n'est pas nécessaire, parce que vous pouvez voir dans votre tête une image avec... trois pieds à votre table, une table ronde ou une table carrée, une table petite ou une table grande, c'est le concept de table. Et le concept de table, c'est ça le signifié. Donc il y a une grande différence entre le signifiant, que vous pouvez écrire d'une manière ou d'une autre, dans une langue ou dans une autre langue, vous pouvez écrire tiche, et le son est différent, le signifiant est différent, le signifié est le même. Pour l'allemand, tiche c'est table. Ce n'est aucune table du monde, c'est le concept de table. Alors vous voyez qu'en face de son sens, j'ai mis les choses, les référents. Donc ce sont toutes les tables qui pourraient être atteintes par le mot table. Mais ça, ce sont des choses. Là, nous sommes dans l'acte de parole. Et très souvent, on confond le signifié et le référent. Le référent, c'est la chose auquel le sens renvoie. Ce sont des distinctions évidemment assez subtiles que les linguistes ont faites. Et donc, dans la colonne de gauche de l'encart, là, vous avez la langue qui, en puissance, est une pure structure. Il y a plusieurs langues, bien sûr, chacune a sa grammaire, son dictionnaire, chacune a des sons ou des mots écrits et de sens, et qui renvoie à des choses, les référents, mais les référents sont les mêmes pour toutes les langues. Donc les tables qui sont ici, on peut les appeler dans toutes les langues du monde, le référent est le même. Le signifié aussi est le même. Mais le signifiant sera différent. Et chaque fois, c'est un système, structuré, logique, qui permet de se rapporter à la réalité et à la vérité. Donc voilà, la langue, c'est un ensemble de possibilités qui sont là à notre disposition, dans une certaine synchronie. Alors vous voyez que j'ai mis synchronie, ça veut dire que tout est là, à plat, en même temps. Tous les mots du dictionnaire sont là en même temps. Alors bien, dans une phrase, vous ne pouvez pas dire tous les mots du dictionnaire dans une seule phrase, bien sûr, en une seule parole, vous devez choisir, mais tous les mots sont là, dans une synchronie, mais une synchronie immobile. Ça ne bouge pas le dictionnaire. Les mots sont là, ils sont à leur place, ils ne bougent pas. Si vous voulez les faire bouger, vous devez les tirer et les mettre ensemble et les énoncer. Alors ça bouge, mais vous n'aurez pas pris tous ensemble. Et alors ça commence à s'énoncer dans le temps, dans la diachronie. Diachronie, donc, ça veut dire dans le déroulement du temps. Synchronie, ça veut dire simultanéité. Diachronie, ça veut dire successivité. Une parole s'énonce toujours dans le temps. Il y a un début, un milieu, une fin. Si c'est une petite phrase, ça va très vite. Si c'est un grand cours, ça c'est plus long. Si c'est Guerre et paix de Tolstoï, et bien là, vous en avez pour quelques kilomètres de signes et quelques heures de lecture. Mais ça se déroule dans le temps. Donc, la synchronie s'oppose à la diachronie. Alors, d'un côté, dans le dictionnaire et la grammaire, vous avez des éléments finis. Le dictionnaire peut être très grand, mais il contient un nombre fini de mots. Un nombre précis de mots. Alors, il y a des dictionnaires plus courts, plus longs, et il y a peut-être des mots qui ne sont pas encore dans le dictionnaire, ou bien voilà. Mais de toute façon, il y a une clôture des signes, comme on dit. il y a une clôture des signes. Donc, la langue est un ensemble défini et clôturé de possibilités. Tandis que le discours, lui, est infini. On peut toujours rajouter des phrases aux phrases. Et il y aura toujours des locuteurs et des gens qui vont naître et qui vont faire de nouveaux discours et faire de nouveaux romans, etc. Donc là, il y a comme l'infini de l'événement. La parole mise en acte par un sujet, eh bien, voilà, se succède dans l'histoire. Et chaque fois que quelqu'un parle, c'est un événement. Alors, c'est peut-être pas un grand, grand événement, mais c'est un événement. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'inattendu. Alors que la langue, il n'y a rien d'inattendu, tout est là, présent, hein, synchroniquement, et dans une clôture. Au contraire, quand on parle, eh bien, moi je ne sais pas ce que vous allez me dire. C'est nouveau. Hein. Et je dirais, plus on est voilà, dans des circonstances nouvelles, ou bien dans des inspirations nouvelles, plus ce qu'on dit a l'effet vraiment d'un vrai événement nouveau, qui met en route notre volonté et notre liberté, et non seulement la liberté individuelle de chacun, mais nos libertés ensemble. Parce qu'on parle toujours, ou presque toujours, pour quelqu'un. Et ce quelqu'un va répondre. Donc le langage est ce qui lie les hommes entre eux. Hein. Ce qui nous fait communiquer entre nous nos pensées, mais aussi nos sentiments et nos histoires, etc. Et donc, on m'avait fait un peu, la remarque que j'avais décrit la liberté de manière très individualiste dans les deux cours précédents, eh bien, en effet, bon, d'accord, mais justement avec le cours sur le langage, et puis encore plus la société et l'histoire, je commence à essayer de mettre ensemble une description plus individualiste de l'homme à partir du corps et de la liberté. Donc, ces mots, ces phrases que nous faisons et que nous prenons l'initiative de faire avec notre liberté, eh bien, font l'histoire. Et l'histoire est inattendue, elle est infinie, enfin au sens où elle est, on ne sait jamais, il n'y a pas de clôture par rapport au dictionnaire et la grammaire, il n'y a pas de clôture. On peut toujours écrire plus, on peut toujours parler plus, le temps est là qui nous ouvre toujours la possibilité. Et donc, ce fait d'embrayer, on parle d'embrayeur en linguistique, le fait d'embrayer les mots dans l'histoire, grâce à des particules bien particulières, bien nettes, comme par exemple « maintenant, je vous dis ». Eh bien, « maintenant », ce n'est pas simplement un mot dans le dictionnaire, c'est cette heure-ci. « Je », c'est moi, et « vous », c'est vous. Et donc, avec ces embrayeurs, avec ces mots donc, qui font référence à partir du dictionnaire, bien sûr, mais à des personnes et à des référents clairs et nets et à des moments clairs, la langue passe dans l'histoire. Le langage devient un moteur de l'histoire, un moteur de communication des libertés entre elles. Et là apparaissent les vrais référents et les vrais locuteurs. Alors, vous savez qu'il y a un film qui s'appelle Matrix, qui imagine que, en fait, la réalité n'existe pas, mais qu'il n'y a que des cerveaux qui imaginent un monde, et que ce monde est purement intérieur au cerveau, et que ce sont des projections intracérébrales, mais que le monde n'existe pas. Mais comme ce cerveau est bien fait, et qu'il y a 80 milliards de neurones, alors ça tourne dans tous les sens, et donc ça crée un monde, mais qui n'existe pas, qui est purement virtuel. Eh bien, oui, on peut s'imaginer ça avec une langue qui fonctionnerait, je dirais, sans référent, mais notre langue, elle fonctionne avec des référents et des vrais locuteurs un vrai monde qui fonctionne grâce aux échanges qui se font par la langue. Mais le référent, disons, il est extérieur au langage, mais il est ramené grâce au langage dans le dialogue entre les personnes. Alors je reparcours rapidement le cadre qui est là. Deux dimensions du langage, langue plus parole, d'un côté puissance, de l'autre acte, d'un côté structure, je dirais inerte, mais potentiellement très puissante, et histoire. La langue, elle est muette. Il y a plusieurs langues, bien sûr. Chacune se compose de grammaire et de dictionnaire. Le dictionnaire donne des mots, des signes, qui se décomposent abstraitement en un signifiant et un signifié. Le signifié n'est pas la même chose que le référent, que les choses elles-mêmes. La parole, c'est un acteur qui s'empare de ces mots et de ce dictionnaire et qui fait un événement en disant quelque chose qui le concerne, qui nous concerne. D'un côté, on est dans la synchronie, dans l'autre, dans la diachronie, clôture des signes et l'infini de l'événement. Alors voilà, une autre manière d'Iricoeur de reprendre ces caractéristiques, c'est de les opposer deux à deux, avec cinq caractéristiques, vous voyez là sur votre feuille au point 7. D'un côté, un système atemporel, et de l'autre côté, un événement actuel. L'homme est un être parlant qui se sert d'un système atemporel pour vivre dans l'actualité des événements et les créer lui-même. Du côté de la structure du langage, des contraintes, des déterminismes, des règles, on ne peut pas sortir de ces règles, hein. Il faut parler selon la règle qui est imposée. De l'autre côté, choix. Le locuteur choisit, bien sûr contraint par ses règles, etc., mais il choisit de dire cela plutôt que ceci. D'un côté, la clôture des signes, de l'autre, la possibilité d'une novation, hein, d'une nouveauté infinie, dont on est l'acteur à partir des déterminismes qui nous sont donnés par la structure. D'un côté, une différence purement interne, et de l'autre, une différence externe, la référence externe. Hein. Je suis dans un monde, il y a d'autres personnes que moi, il y a d'autres choses que moi, je ne suis pas dans un système clos. D'un côté, l'anonymat de la structure, tout le monde parle la même langue, mais cette langue comme telle est anonyme. Et de l'autre côté, il y a la subjectivité, la manière dont je m'en empare, dont je la parle. Alors moi, je trouve extraordinaire que nous puissions tous parler une même langue à un moment donné et que nous nous comprenions. Hein. Comment se fait-il que nos cerveaux sont tels que... Hein, eh bien, ils soient capables d'assimiler le même dictionnaire, la même grammaire, de fonctionner de la même manière pour dire des choses différentes peut-être, mais quand même avec un background, commun très important. Alors cela, la langue nous permet de décrire le monde et de dire la vérité ou le mensonge. Mais ça ne dépend pas directement de la langue, ça dépend finalement du locuteur, ça dépend de la manière dont il utilise la langue dans son langage. La vérité, ce n'est pas une formule, une phrase qui a été énoncée quelque part par quelqu'un. La vérité se fait dans l'histoire, à partir de phrases évidemment qui sont plus ou moins correctes, plus ou moins proches de la réalité et des choses et de nos libertés bien sûr. Mais la vérité, ce n'est jamais une formule. Parfois, de manière un peu naïve, hein, je dirais, quand on commence à étudier la philosophie, où on dit, mais allez, dites-moi la vérité, hein, dites-moi une phrase qui dise la vérité de telle ou telle chose, quoi, hein, telle ou telle réalité. Mais la vérité, ce n'est pas quelque chose qui s'enferme de manière inerte dans une formule. C'est quelque chose qui vit à travers un discours que l'on prononce, et où des libertés s'engagent. Hein. Je m'engage à essayer de dire le plus possible la vérité, mais je peux aussi faillir et être tenté par le mensonge, être tenté par la manipulation, etc. Dans ce cas-là, eh bien, la vérité s'effrite hein, dans mon discours. On n'a jamais la vérité une fois pour toutes. Il y a bien sûr des phrases qui font sens et qui permettent d'atteindre hein, davantage la vérité de nos vies, mais ça ne s'enferme pas dans une formule. C'est le produit d'un acte, d'un dialogue que nous avons entre nous. La langue comme telle est hospitalière aussi bien à la vérité qu'à l'erreur, hein, au bien qu'au mal, mais la vérité du langage, ce n'est pas le langage, ce n'est pas la langue qui le produit ou la phrase, c'est l'engagement hein, du locuteur dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et enfin, on peut dire, je terminerai par là, que la langue, enfin le langage, la parole, est aussi ce qui nous permet de nous accorder les uns aux autres, au-delà de nos différences, au-delà de nos oppositions, etc. C'est ce qui permet aussi d'apaiser nos violences. Éric Veil a fort souligné cet aspect. Hein. La guerre, les conflits, etc. C'est en parlant qu'on parvient à se réaccorder. Hein. La diplomatie, c'est quoi? C'est de parler plutôt que de faire la guerre. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'hypocrisie, peut-être, même de violence dans la diplomatie, mais c'est quand même mieux, peut-être, que de se tuer les uns les autres, tout de suite. Hein. Quand vous avez quelqu'un de très fâché devant vous et qui veut vraiment vous faire du mal, vous dites stop, discutons, parlons un petit peu, de quoi s'agit-il? Enfin, vous essayez d'enclencher le discours pour désamorcer la violence qui pourrait être assez naturelle dans certaines circonstances. Voilà, donc beaucoup de techniques aujourd'hui de résistance non violente, etc., expliquent comment parler, hein, comment utiliser les mots, comment ne pas utiliser certaines tournures ou certaines manières de présenter les choses pour arriver à la paix et pour désamorcer la violence. Voilà, je m'arrête ici. J'ai terminé le cours que je comptais vous donner sur le langage. Je crois que je vais couper les enregistrements. Hein, je dis au revoir à tous les gens, je ne sais pas combien il y en a, hein, qui nous suivent sur YouTube.